RCF.
Dietrich Bonhoeffer est l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, un homme reconnu pour son œuvre dans toutes les églises chrétiennes. Pasteur luthérien, résistant au nazisme, il fut exécuté le 9 avril 1945 dans un camp de concentration après une longue période d'emprisonnement. Dietrich Bonhoeffer fut un théologien de renom, mais il reste avant tout un témoin qui a choisi de suivre le Christ jusqu'au bout par conviction et fidélité à un amour qui le précédait. Il nous laisse un héritage humain et spirituel important et cette semaine je vous propose d'évoquer son œuvre en compagnie d'Henri Motu, professeur émérite à la faculté de théologie pratique de Genève. Henri Motu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de Bonhoeffer, traducteur de ses écrits chez Labor et Fides. Je cite aussi votre livre, Dietrich Bonhoeffer, paru aux éditions du Cerf. Pour ouvrir ces entretiens, il va falloir retracer le portrait de cet homme que tout le monde ne connaît pas. Il naît en 1906 dans une famille protestante allemande.
Tout à fait. Il naît en effet dans une famille protestante de la haute bourgeoisie. Son père est professeur de médecine. Il naîtra à Breslau à l'époque, qui était encore allemande. Et son père va être nommé à Berlin en médecine psychiatrique. Et sa mère vient également d'un milieu aristocratique. Et donc, c'est une famille d'intellectuels, professeurs, médecins, juristes. Et dans cette famille, au fond, les gens sont pas pratiquants vraiment. Ce sont des protestants culturels. Kultur Protestantismus, comme on dit en allemand, c'est un protestantisme, disons, assez éloigné de l'Église institutionnelle. Et donc, le jeune Bonhoeffer, très tôt, va décider de devenir pasteur. Ses frères et sœurs se moqueront gentiment de lui, d'ailleurs. Ils lui diront en substance « Pourquoi tu veux faire de la théologie ?» Et puis, il dira « Non, mais je sais que l'Église va mal, mais je la réformerai. » Donc, vous voyez, dès son jeune âge, c'était un homme qui voulait changer les choses.
Je crois que la mort d'un de ses frères l'a énormément touché.
Oui, Walter, oui, un de ses frères, en effet, qui est mort sur le
front en 18.
Sur le front, exactement. Et ça l'a touché, et ça a touché surtout leur mère, laquelle ne s'est jamais vraiment consolée de cette mort de ce fils. Et c'est peut-être de là que Bonhoeffer, d'ailleurs toute sa famille, seront des gens opposés évidemment à la guerre et à toute guerre. C'est pour ça que Bonhoeffer, dans sa jeunesse, sera pacifiste.
Alors on retrouve ce pacifisme aux États-Unis puisqu'il voyage dans les années 20. Alors il va aller en Espagne et puis aux États-Unis, à New York. Et là, je crois qu'il fait une expérience assez importante.
Voilà. Alors il sera en 1930 et 1931, il aura une bourse de son église pour aller en effet étudier à New York. Et là, il va faire des rencontres importantes, notamment la rencontre du pasteur français Jean Lasserre, pacifiste absolu, et qui va beaucoup l'influencer et qui va justement attirer son attention sur le serment sur la montagne dans l'évangile de Matthieu.
Henri Motu, le parcours de Dietrich Bonhoeffer coïncide en Allemagne avec l'ascension de Hitler. Comment se positionne-t-il ?
Alors, dans sa famille, il y a un dicton qui court, en somme, qui dit que Hitler signifie la guerre. Dès 1933, et même avant, sa famille se méfie de ce déséquilibré. Et donc, sa famille et beaucoup d'intellectuels allemands, universitaires allemands, sont anti-hitlériens dès le début. D'ailleurs, ils voient très proche d'eux des professeurs juifs de leur connaissance qui doivent s'exiler, qui doivent partir, quitter l'Allemagne s'ils en ont les moyens. Ces gens-là connaissent très bien les persécutions dès le début et le langage terrible d'une vulgarité incroyable du chancelier. Et donc, c'est une famille, si vous voulez, où il y a cette culture protestante aussi qui fait que ces gens sentent tout de suite que les choses suivent un cours qui va s'avérer absolument terrible.
Mais est-ce que l'Église allemande protestante est du même avis.
Non, non, hélas, c'est le problème. Et c'est la raison pour laquelle Bonhoeffer, tout jeune encore, il est très jeune, va rejoindre les rangs de ce qu'on appelle l'Église confessante.
Alors c'est quoi cette Église confessante?
Alors l'Église confessante, ça a été un mouvement consistant à protester contre le renvoi des pasteurs juifs d'ascendance juive de l'Église. Ça a commencé comme ça, parce qu'on a appelé ça le paragrapharien, c'est-à-dire l'hitlérisme commence à mettre à la retraite ou à persécuter les professeurs juifs, les médecins juifs, etc.
Et les pasteurs.
Là, pardon ?
Et les pasteurs.
Et les pasteurs. Et alors, l'Église dit, enfin, certains dans l'Église disent, maintenant ça suffit. Et donc, le jeune Bonhoeffer va suivre Martin Niemöller, qui est à l'époque le pasteur résistant numéro un, fondateur justement de ce courant, c'est un courant dans l'Église protestante, l'Église confessante, et c'est ce Martin Niemöller, très connu par les journaux européens, etc., beaucoup plus que Bonhoeffer, personne ne connaît Bonhoeffer, il est tout jeune, il sort pratiquement des études, il n'a pas de paroisse, etc., tandis que Niemöller est vraiment un leader, et Niemöller va être emprisonné depuis 1937 jusqu'à 1945 dans des camps de concentration.
Henri Motu, nous parlons de Dietrich Bonhoeffer qui va donc rejoindre l'Église confessante qui s'oppose à l'idéologie nazie. Il crée un séminaire très jeune. Il veut donc former des hommes pour pourquoi exactement ?
Oui, alors à l'intérieur de l'Église confessante, on a décidé de créer des séminaires pastoraux, comme on les appelle, c'est-à-dire après les études universitaires, former des jeunes pasteurs dans le sens confessant, comme on disait, c'est-à-dire dans le sens pratiquement anti-hitlérien. Et Bonhoeffer, il ne l'a pas créé lui-même, il a été nommé directeur de ce séminaire pastoral à Finkenwalde, et là il va pendant 2-3 ans, former des jeunes pasteurs.
Mais à quoi exactement ? À la résistance ?
Oui, enfin d'abord, ils vont étudier les textes, le Sermon sur la montagne. C'est de là que viendra son livre très célèbre, Le Prix de la Grâce, où il analyse le Sermon sur la montagne et ses conséquences pour ces jeunes pasteurs, pour essayer de les diriger vers le sens de la résistance. À vrai dire, je dis résistance, c'est peut-être un peu exagéré. Il peut pas dire ouvertement ses idées, mais ses étudiants ne s'y trompent pas, évidemment.
Alors Dietrich Bonhoeffer va être arrêté à un moment donné.
Oui.
Pour quelle raison ?
Dès le séminaire pastoral à Finkenwalde, la Gestapo se méfie de lui, déjà même avant, à mon avis. Il est écouté, suivi, son courrier est lu, censuré, tout ça. À mon avis, ses téléphones aussi sont écoutés, tout ça. Et donc, il est suivi et finalement, il va être suspecté d'abord de résistance au fond passive. Et puis après, il va être emprisonné, 1943 très exactement.
On l'accuse de conspiration contre
Hitler. Oui, de conspiration. C'est-à-dire, on l'accuse plus exactement de démoralisation de l'armée. C'est plutôt cela, parce que il faut bien comprendre que Bonhoeffer ne voulait pas obéir à la conscription. Il était hors de question pour lui de devenir soldat.
Donc il est arrêté, il va rester combien de temps en prison ?
Plus exactement, en 39, ses amis sont tellement inquiets qu'ils vont l'inciter à accepter une invitation à New York, dans le même séminaire dont nous avons parlé. Et dans ce séminaire, il va vivre quelques mois, au fond, de détresse spirituelle, où il va se demander s'il faut rester ou partir, exactement. Et finalement, il se décide de rentrer en Allemagne parce qu'il dit « je veux porter la faute de mon peuple sur mes épaules ». Et donc, il va rentrer à ses risques et périls, c'était très dangereux, et donc il va être protégé pendant un temps par le service de contre-espionnage, au service duquel on le met pour le protéger, justement. Mais peu à peu, la Gestapo va quand même découvrir le poteau rose, si vous voulez, et va l'emprisonner.
Alors, il est emprisonné. Oui. Il écrira dans sa prison des choses très importantes, magnifiques. On aura l'occasion d'y revenir.
Voilà.
Il s'est fiancé juste avant.
Juste avant.
Et il va finir par être exécuté.
Exactement. À Flossenbürg, dans un camp de concentration du sud de l'Allemagne.
Il n'a pas 40 ans.
Exactement, il a 39 ans, exactement. C'est terrible. Il est très jeune encore. Et tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un martyr protestant? Alors, le mot martyr...
Bon, c'est pas à sa place, oui. Il n'aurait pas aimé ça. Lui, il n'aurait pas aimé ça. Mais en fait, c'est bien un martyr, oui.
Il avait conscience de cette vie qui allait sûrement s'arrêter?
Oui. Alors, à propos de martyr, je reviens juste sur votre phrase. C'est compliqué parce que l'Église allemande, y compris après la guerre, a refusé de le considérer comme un martyr chrétien. Il disait c'est un martyr, mais un martyr politique. À cause de la conspiration dans laquelle il a trempé, nous reviendrons là-dessus. Donc, vous voyez, c'est compliqué. À l'époque, les gens disaient non, c'était un traître à l'Allemagne, c'est tout. Et sa mort, ben, c'est tout ce qu'il méritait, avec les conjurés du 20 juillet 44, tous exécutés. Donc, vous voyez, c'est compliqué.
Il a fallu du temps pour le réhabiliter.
Oui, c'est très tard. En fait, c'est un peu comme la Shoah, si vous voulez. C'est très tard, assez tardivement, qu'on a pris conscience de la Shoah. De même, les églises allemandes ont changé d'opinion peu à peu. Et dans les années 60, finalement, grâce à son disciple et ami Eberhard Bethke, qui a édité ses textes, grâce à ça, peu à peu, ce qu'on appelle en Allemagne le Widerstand, c'est-à-dire tout le mouvement de résistance, est devenu très connu et très apprécié, évidemment, des Allemands, des églises allemandes, jusqu'au gouvernement.
En tout cas, la substantifique moelle de la spiritualité de Bonhoeffer est incroyable. On aura l'occasion d'en parler avec vous. Merci, Henri Motu. À demain.
À demain.